de se retrouver encore cet après-midi. Que Dieu soit béni pour ces moments, pour ces chants, et pour ces moments où nous allons ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous révèle qui est Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Elle nous révèle qui est Dieu, sa grandeur, sa puissance, son amour, ses compassions, ses miracles aussi, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. On trouve le caractère de Dieu, ses attributs. Formidable ce livre, c'est le seul livre qui nous parle réellement de qui est Dieu, la Bible. Elle nous parle aussi de l'homme, de qui nous sommes en réalité, de notre faiblesse, de nos limites. Elle nous parle de cette main tendue de Dieu vers l'homme. Et chaque fois que Dieu est intervenu dans la vie des hommes, ça a été toujours pour attirer le regard et comprendre que nous avons besoin de nous soumettre à Dieu, nous avons besoin de marcher avec lui. J'aimerais lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, voilà, qui nous montre combien Dieu est puissant. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. Voilà une intervention de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Amen. Quel bonheur, quel joie de pouvoir croire en Dieu, de pouvoir croire Dieu. On voit, comme je l'ai dit, dans la Bible, il y a des récits d'impossibilité où Dieu, étend sa main, fait un miracle. Et là, dans cette nuit, j'ai intitulé ce message « Un chant dans la nuit ». Alors qu'à minuit, vous savez, il se passe des choses la nuit, hein, des choses ténébreuses la nuit. Dieu voit tout, tout ce qui se passe dans la surface de la terre, la nuit, vers minuit, les choses ténébreuses. Et eux, vers minuit, Paul et Silas, ils chantent les louanges du Seigneur, ils prient, ils ont une confiance en Dieu, et au lieu de dormir ou peut-être de gémir, ils ne se plaignent pas, mais ils louent Dieu. C'est bon ça. C'est bon d'avoir cette paix, cette assurance dans le cœur. Et dans ce texte, ce qui est important, bien sûr, c'est la question la plus importante que l'on doit se poser, qui nous interpelle. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? La réponse est dans le texte, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais elle nous amène aussi à une autre question qu'on peut se poser, mais sauvé de quoi ? Bien des gens me disent, mais j'ai besoin d'être sauvé de quoi ? Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et la Bible dit aussi que tous les hommes sont pécheurs, ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est bien plus qu'une action mauvaise. Le péché, c'est une séparation d'avec Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, on est livré à nous-mêmes. On est livré à nos propres forces, nos capacités, et on s'aperçoit bien vite qu'on est limité, qu'on est sans force, et quelquefois sans doute, sans pensée, sans volonté. L'homme qui a posé cette question dans ce texte est citoyen romain, qui vivait donc dans cette ville de Philippe, qui était une colonie romaine, et certainement c'était un retraité de l'armée romaine qui faisait fonction et qui avait ce métier de gardien de prison. Et à cette époque, les gardiens de prison, il fallait qu'ils soient rompus, qu'ils aient un caractère, parce qu'ils battaient les prisonniers avant de les jeter dans... Et si vous lisez les versets qui précèdent, il nous est dit qu'ils les prirent, ils les battirent et ils leur mirent les fers aux pieds. Il ne faut pas être trop sentimental. Et donc, ils les jettent en prison et la Bible nous dit, voilà, c'était sa profession. Et Paul et Silas ont été emprisonnés, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils annonçaient l'Évangile et parce qu'ils avaient accompli un miracle, une délivrance, une femme qui était possédée, une femme qui était malheureuse, une femme qui était exploitée. Et eux, au bout d'un moment, ils ont prié pour elle et elle a été libérée. Voilà pourquoi ils ont été emprisonnés, parce qu'ils ont fait du bien, ils ont annoncé l'Évangile. Ils ont apporté dans cette ville une espérance, dans la ville de Philippe, et c'est pour cela qu'ils se retrouvent en prison. Mais ils marchent sur les traces de Jésus. Jésus n'a fait que du bien dans les évangiles. On s'aperçoit qu'il a guéri, il a délivré, il a purifié les lépreux, il a apporté une espérance à ceux qui n'avaient plus aucune espérance. Jésus n'a fait que du bien. Vous lisez les évangiles, Jésus n'a fait que du bien. C'est quand même paradoxal qu'il se retrouve, eh bien, crucifié. Qu'il se retrouve, on a blasphémé contre lui, on lui a dit de tout, on l'a battu, on l'a cloué sur une croix. On se dit, mais logiquement, l'esprit humain, pourquoi on va faire du mal à quelqu'un qui n'a fait que du bien ? On s'aperçoit que c'est un message qui dépasse l'esprit humain. L'évangile nous vient du cœur de Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, il est dit, au chapitre 1er, versets 14 et 15, l'évangile de Dieu, c'est un message qui nous vient du cœur de Dieu, l'évangile. C'est tellement beau, tellement puissant, et Paul considérait cet évangile comme une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors voyons un petit peu les circonstances qui ont amené cet homme à poser cette question. Dans cette prison, il y avait certainement beaucoup de détenus qui devaient, eux, gémir, se plaindre, se révolter. En tous les cas, ils étaient là dans cette prison et eux, ils y étaient pour des faits qu'ils avaient commis. Mais il y eut cette nuit-là, Paul et Silas, et il y eut cette nuit-là des chants au milieu de la nuit. Il y eut cette nuit-là Dieu qui visita cette prison. Mais c'est tellement beau. Je me dis, mais Dieu peut aller dans n'importe quelle situation. Quand un homme, une femme croit en lui et prie, le cherche, il peut intervenir dans une maison, dans un endroit tellement ténébreux. Quand Dieu visite une maison, quand Dieu visite une prison, quand Dieu visite un endroit comme Bethesda où il y a des paralytiques, des malheureux, quand Dieu visite un endroit, il le bénit. Il fait un miracle et cette nuit-là, il y a eu des miracles qui se sont produits dans cette prison, plusieurs miracles qui se sont produits dans cette prison parce que deux hommes aimaient Jésus, deux hommes marchaient dans les plans de Dieu. Deux hommes, au lieu de se plaindre, étaient remplis du Saint-Esprit et ils chantaient les louanges du Seigneur. C'est tellement beau. Frères et sœurs, chers amis, puissiez-vous vous tourner vers le Seigneur, ceux qui ne le connaissent pas, et commencer à prier, commencer à dire, Seigneur, mais je connais une religion peut-être, mais c'est toi que je veux connaître. C'est toi, Seigneur, révèle-toi à mon cœur et que je puisse, eh bien, expérimenter la grâce de Dieu, le pardon et la délivrance. Il y eut donc des chants dans cette nuit, dans ces ténèbres, dans cet endroit hostile, dans cet endroit froid, dans cet endroit vraiment humide, dans cet endroit à minuit. Eh bien, Dieu visita cette prison. Que Dieu visite notre cœur cet après-midi, dans une réunion toute simple. Le Seigneur veut visiter notre cœur, il veut nous toucher, nous parler, intervenir dans notre vie. Il est comme cela, le Seigneur. Il veut nous faire du bien. C'est dans son caractère, Dieu est amour, il veut nous faire du bien, il veut nous retirer de la fosse, il veut nous retirer des ténèbres, il veut nous retirer des endroits, des prisons. Le Seigneur est nous amener dans sa présence. Il priait, il chantait les louanges. Quelle différence avec les autres prisonniers. Eux, ils étaient chrétiens, ils marchaient dans la confiance, comme j'ai dit, totale à Dieu. Ils étaient entre les mains de Dieu. Et là, ça nous montre, pour nous qui connaissons le Seigneur, ils étaient dans la prison, ils étaient en paix, ils étaient tranquilles, ils étaient dans le repos de Dieu, et ils se disaient, nos vies sont entre les mains de Dieu. Quand on peut dire ça, c'est bon. On peut se trouver n'importe où, on sait que nos vies sont dans les mains de Dieu. On peut se reposer en lui, on peut lui faire confiance. Rien n'arrive sans qu'il le permette, qu'il le veuille. Et avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. C'est extraordinaire de se retrouver dans la confiance du Seigneur, dans la paix de Dieu. Ça dépasse toute intelligence. Ah, il savait que Dieu était tout puissant pour intervenir, pour se manifester, il le savait. Alors on ne peut pas arrêter le bras de Dieu. On ne peut pas arrêter l'Esprit de Dieu, on ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Elle court avec vitesse aux extrémités de la terre, les endroits les plus reculés. La parole de Dieu peut y aller, l'Esprit de Dieu peut y aller. Dieu peut y aller, il n'oublie aucun endroit de la terre, aucune tribu, aucune personne. Dieu veut se manifester à tous les hommes. D'ailleurs, Jésus l'a dit, c'est quand cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations qu'il reviendra. Il veut au moins que tous les peuples, et peut-être quelqu'un cet après-midi, je vous connais pas, peut-être quelqu'un n'a jamais entendu l'évangile, mais puissiez-vous cet après-midi dire c'est une grâce de Dieu. Dieu pense à moi. Dieu pense à moi et me communique cet après-midi sa parole. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il chantait, il priait, il louait le Seigneur, qu'une chose extraordinaire se produit, il est dit au verset 26, il y eut un grand tremblement de terre. Ah, il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça, un grand tremblement de terre. Dans cette prison, je ne sais pas si c'était placé sous un endroit sismique, mais il y a eu un grand tremblement de terre, mais c'est Dieu qui l'a provoqué. Alors dans les Actes des Apôtres aussi, au chapitre 4 et verset 31, vous savez, quand on prie vraiment, quand on prie par l'Esprit, quand on prie avec foi, ça tremble. Dans Actes 4, 31, il nous est dit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ça, c'est pour nos réunions de prière. Amen. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. » Alors, c'est vrai que la prière de la foi fait trembler les fondements de l'incrédulité, fait trembler les fondements du doute, des certitudes humaines, des situations les plus désespérées. Quand un homme prie avec foi, une femme prie avec foi, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Le résultat de ce tremblement de terre, c'est que les portes se sont ouvertes. Alors ça, c'est un premier miracle. Les portes se sont ouvertes, mais il y a eu... Dieu ébranle la mort, le péché, l'incrédulité, mais il fait grâce aux pécheurs. Il fait grâce. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu sait doser l'intensité aussi des tremblements de terre. Parce qu'il ne voulait pas écraser tous ces prisonniers, Paul et Silas. Il voulait juste les sauver. Il a dosé l'intensité du tremblement de terre et juste les portes se sont ouvertes. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Il n'y a que Dieu. Et c'est formidable comment Dieu s'est dosé, ces choses, les portes se sont ouvertes, mais Dieu a préservé les prisonniers. Pourquoi ? Il y avait Paul et Silas, et Dieu voulait sauver cette famille. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il met tout en œuvre. Il met tout en œuvre. C'est tellement beau, quand Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Jésus est venu libérer les captifs. Il nous est dit, si le Fils, dans Jean 8, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors dans le livre des Actes, il ne faisait pas bon être gardien de prison, parce qu'on a au moins trois endroits où les portes de la prison se sont ouvertes. On a dans Actes 5, de verset 17 à 19, on a dans Actes 12, versets 7 à 10, les portes des prisons s'ouvrent. Jésus est venu libérer les captifs. Aucune porte de prison ne peut retenir la grâce de Dieu, la main de Dieu, l'action de Dieu, la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Paul et Silas étaient, eux, enfermés, mais ils étaient libres en Christ. Mais combien d'hommes et de femmes vivent dans des prisons invisibles ? Je réfléchissais à cela, combien il y a de prisons invisibles qui nous maintiennent captifs, malheureux. Une seule pensée dans notre esprit, une inquiétude, peut nous maintenir des années dans une prison invisible et nous rendre malheureux. Il est dit dans l'évangile de Luc, je crois au chapitre 1er, il est dit qu'ils étaient retenus toute leur vie captifs par la pensée de la mort, la crainte de la mort. Ils étaient retenus captifs toute leur vie. Jésus veut nous libérer et lui veut régner dans notre cœur et dans notre vie, nous libérer de toutes ces prisons invisibles. Voilà les circonstances qui ont amené ce gardien à poser cette question. C'était un drame pour lui, il était en responsabilité de cette prison, il devait répondre de chaque prisonnier. La seule solution pour lui, la seule qu'il a eu en vue, c'était le suicide. Mais combien de choses dans la vie nous amènent à des impasses? Combien de choses nous amènent à ne plus voir aucune issue? On ne peut pas se mettre à la place de personnes qui arrivent et ne voient plus aucune issue. On se dit quand même, pour se donner la mort, il faut vraiment... Ben oui, il y en a qui arrivent à ne plus voir aucune solution, plus avoir aucune espérance, plus aucune issue. Ils se retrouvent acculés et la seule solution, c'est de se donner la mort. Eh bien, Dieu est venu, Jésus est venu pour donner la vie. Sur le plan familial, professionnel, matériel, plus d'issue, voilà, sur le plan... On peut trouver... quelques solutions sur le plan matériel, sentimental, professionnel, mais ce ne sont des solutions, mais ça ne guérit pas la cause. La cause est beaucoup plus profonde, elle est spirituelle. Je me souviens de ce jeune qui avait fait une colo avec moi il y a bien des années, c'était en 88, je crois, et un grand gaillard, plein de tatouages, l'époque, j'ai dit, mais raconte-moi ton témoignage. Et c'est beau de voir comment le Seigneur peut intervenir dans la vie de quelqu'un, ça m'avait touché. Il dit, j'étais parti à l'âge de 16 ans de la maison, il était d'Alsace, il avait eu des problèmes avec ses parents, il était parti sur la route à l'âge de 16 ans, et il a vécu pendant 10-11 ans dans la rue, comme SDF. Il s'est retrouvé sans argent, sans rien, et il s'est retrouvé dans la ville de Marseille. Et il me dit, je dormais autour de la gare, il y a des bouches l'hiver, il y a de la chaleur un peu, il dormait là dans la rue pendant des années et des années. Et il y avait à l'époque un coffee bar à Marseille, et des jeunes sont venus, lui ont proposé de l'inviter à manger, et il y avait deux chambres, je crois, où il pouvait dormir. Et pendant une semaine, il est resté là, et il ne descendait pas au culte du matin, ce n'était pas obligatoire. Mais il était travaillé par Dieu. Et le dernier jour, avant que ce soit fini, parce qu'il gardait une semaine, le dernier matin, il est descendu, il a entendu le message de l'évangile et il s'est converti. Là, un SDF, 11 ans dans la rue. Et la première des choses, il dit, il faut que je retourne voir mes parents. Il est retourné en Alsace. Il a demandé pardon à ses parents. Il est revenu dans la maison. Il a repris ses études. Et il était à l'époque où je l'ai connu, éducateur spécialisé, et il avait fondé un foyer, mais c'est beau. Je me dis quand même, dans la nuit, des chrétiens sont venus pour lui proposer à manger, c'était le soir, l'hiver, faisait froid, je crois que c'était dans la période même de Noël. Il est retourné, il a été, sa vie, Dieu a changé complètement sa vie, son cœur, il servait le Seigneur l'été dans les colos, c'est beau. Voilà, Dieu est le Dieu du miracle. Dieu, le Dieu qui fait grâce, il nous interpelle, il nous appelle. On a du mal à lui faire confiance, à s'abandonner entre ses mains, à se dire oui, c'est ce que je veux, voilà, je veux marcher avec toi, Seigneur. Voilà, s'abandonner entre ses mains, être convaincu que Dieu nous aime. Je disais, la cause, elle est plus profonde, elle est spirituelle, ce n'est pas simplement des choses, des conséquences, mais le péché nous sépare de Dieu, nous amène à nous dire je suis perdu. Je suis perdu. On peut essayer des solutions pour combler les conséquences et on peut arriver à résoudre certains problèmes, mais il y aura encore d'autres problèmes. Il n'y a qu'une solution durable, définitive, c'est celle qui vient de Dieu. Et c'est la croix. Dieu a solutionné le problème du péché à la croix. Ça a été, voilà la réponse de Dieu. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. On pourrait parler longtemps de la croix, c'est tellement beau. Ça nous montre l'amour du Seigneur, mais la croix nous montre l'horreur du péché. Il y a les deux facettes, l'amour de Dieu et l'horreur du péché. À la croix, on peut voir toute la laideur du péché, la haine des hommes. On peut voir vraiment le mensonge, l'hypocrisie, le vol, les viols, tout. On peut voir tout cela à la croix. Mais on voit aussi l'amour immense de Dieu qui a donné son Fils afin de clouer non pas le pécheur, mais le péché. Et nous, de recevoir la grâce et la délivrance. Quand on pense à la croix, on se dit que c'est une solution radicale pour un problème profond. Le péché est un problème profond. La croix est une solution puissante contre le péché. Il a vaincu le péché, la mort, la maladie, Jésus. On voit tout ce qui s'est passé à la croix du calvaire. Quand on voit les circonstances autour, moi j'aime à souligner tout ce qui s'est passé dans le jour où Jésus a été crucifié. Vous voyez, toutes les sphères, toutes les sphères ont réagi. Matériel, spirituel, tout a réagi. Il nous est dit que là aussi, il y a eu un grand tremblement de terre. Vous vous souvenez, hein, il y a eu un grand tremblement de terre. Les tombeaux se sont ouverts. Le corps des saints sont ressuscités. Ça devait faire peur. Je ne sais pas, mais ceux qui étaient là, voir des gens qui étaient décédés, d'un coup marcher dans les rues de Jérusalem, c'était dans le ciel, il y a eu des ténèbres. Les ténèbres, tout a réagi, les rochers se sont fendus, le voile du temple s'est déchiré. Et un homme, centenier romain, dit, mais assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas possible, tout ce qui se passe là, mais c'était le Fils de Dieu, assurément. Et cette onde de choc qui est venue percuter le cœur de ce centenier romain. Bien, cette onde de choc, elle vient encore jusqu'à nous cet après-midi. Une onde de choc. Dire, moi, je suis pécheur, mais il faut le reconnaître, on le sait. Moi je savais que j'étais, je ne disais pas que j'étais pécheur avant d'être converti, mais je savais que ce que je faisais était mal. Je savais que ma vie n'était pas bien. Je savais que je vivais des choses que je ne devais pas vivre. Je le savais. Et quand je suis venu au pied du Seigneur, quand j'ai entendu le message de l'Évangile, mais ça m'a percuté comme cette onde de choc qui est venue percuter ce centenier romain. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais ça m'a percuté, je n'ai pas eu de mal parce que je le savais avant que ma vie n'était pas bonne. Mais quand j'ai entendu l'Évangile, j'ai plié le genou. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai fait tout faux sur toute la ligne. J'avais 22 ans, hein. J'ai fait tout faux. Voilà, je me suis trompé, j'ai vécu dans les ténèbres, dans le mal, je ne savais même pas que je pouvais vivre autre chose, mais j'ai entendu cet après-midi le message de l'Évangile, que tu es celui qui libère, tu es celui qui pardonne, tu es celui qui peut donner une vie nouvelle, et je l'ai accepté ce jour-là. C'était le 12 février 1984. Voilà, que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il propose. C'est une solution, la croix, efficace, puissante, définitive. Alors, ne te fais point de mal. Vous savez, quand on est acculé, quand on est sans issue, si ce n'est pas le suicide, il y a d'autres solutions alternatives. Ça peut être l'alcool, ça peut être autre chose. Mais quand on se fait du mal, on fait du mal à ceux qui nous entourent aussi. Ne te fais point de mal. Dieu ne veut pas que nous nous fassions du mal. Dieu nous veut du bien. Dieu veut nous sauver. Alors il y a eu deuxième miracle dans ce texte, c'est que les portes se sont ouvertes, que les chaînes sont tombées, mais aucun prisonnier n'est sorti de sa cellule. Alors ça c'est encore un miracle, hein. Vous imaginez, portes de prison, elles sont ouvertes et les prisonniers, ils restent là, ils ne sortent pas. Pourquoi ? Mais ils ont été touchés par la grâce de Dieu, ils ont été touchés par la puissance de Dieu, ils ont été touchés, ils ont dû faire la relation entre Paul et Silas qui priaient, qui chantaient les louanges, et le tremblement de terre. Ils ont dû se dire, mais jamais un tremblement de terre ouvre juste des portes. Ça tremble, ça ouvre juste des portes, aucun mur n'est tombé, le toit n'est pas tombé, rien, juste les portes s'ouvrent. Ils ont compris qu'il y avait la main de Dieu là, et il y a dû y avoir certainement une crainte dans leur cœur. Ils n'ont pas bougé, ils sont restés là, et Paul dira à ce geôlier, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici, nous sommes tous ici. C'est beau de voir l'œuvre de Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il incline même ses ennemis, il incline. Mais quand Dieu nous bénit, ceux qui sont autour sont bénis. Ils sont bénis parce que notre prière les bénit. Nos louanges, notre foi les bénit, ceux qui sont autour de nous. Et peut-être vous avez dans votre entourage, dans votre maison, peut-être quelqu'un qui vit dans les ténèbres, qui vit dans les chaînes, dans les péchés, dans les vices, les passions. Votre prière est importante. Priez, louez le Seigneur, bénissez-le. Il nous parle, le Seigneur, et il veut bénir nos maisons. Quand Dieu visite une prison, c'est formidable. Mais quand Dieu visite une maison, c'est formidable aussi. Dieu va visiter la maison de ce geôlier. Non seulement lui a été béni, mais toute sa famille. Toute sa famille était bénie. Et je ne pense pas qu'ils se sont fait baptiser juste comme ça. Mais ils se sont fait baptiser parce qu'ils ont entendu le message de Paul, ils ont répondu à l'appel, ils ont accepté Jésus, et Paul a baptisé non seulement geôlier, mais toute sa famille. Le salut est entré dans cette maison. Mais c'est beau quand le salut entre dans une maison, quand le salut entre dans un cœur, c'est beau. C'est cette œuvre extraordinaire du Seigneur. Et tout cela a été possible parce que Jésus est mort sur la croix. Il a rendu possible ce qui était impossible. Maintenant, notre prière est entendue de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort à la croix. Pourquoi il y a des miracles, des guérisons ? Parce que Jésus est mort à la croix. Pourquoi les portes des prisons s'ouvrent ? Parce que Jésus est mort à la croix. Ça a été la réponse de Dieu, la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Et si cet après-midi, on peut réaliser, se dire, mais moi je veux vraiment que Jésus entre dans mon cœur, entre dans ma maison, afin qu'il y ait la bénédiction. C'était les ténèbres, il y a eu la lumière dans cette prison. Le geôlier a demandé de la lumière. Il y a eu de la lumière dans cette prison alors que c'était minuit. Les ténèbres, l'obscurité, l'humidité. Et dans cette prison, il y a eu la joie de Dieu. Il y a eu le miracle de Dieu. Il y a eu le salut de Dieu. Les portes des prisons se sont ouvertes. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. C'est pas moins. L'Évangile n'améliore pas juste un peu une situation, mais l'Évangile libère, l'Évangile nous donne un cœur nouveau, nous donne une espérance nouvelle, l'Évangile permet que nous soyons pardonnés, réconciliés, ça c'est l'œuvre de l'Évangile. Dieu ne fait que des miracles dans sa parole, il fait des miracles, Jésus parcourait les rues de Jérusalem, mais pas seulement, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, là où est Jésus, les ténèbres s'enfuient. Là où est Jésus, les portes de prison s'ouvrent. Là où Jésus entre, eh bien, le lépreux est purifié. Là où Jésus entre, il ne cohabite pas avec le péché, mais il purifie le cœur. Il pardonne, il donne une espérance nouvelle. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous pouvons, voilà, au lieu de nous désespérer quand c'est minuit, peut-être en tant que chrétien, c'est minuit, nous sommes dans une situation difficile, on a du mal à dormir. Au lieu de gémir peut-être, prions le Seigneur, louons-le. Louons le Seigneur. Dans sa parole, nous trouvons des puissants encouragements. Et pendant que nous sommes là, nous ne pouvons rien faire, nous, si ce n'est de faire confiance à Dieu. Mais lui, il peut tout. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu es ce Dieu du miracle. Seigneur, tu as visité cette prison dans cette nuit-là, à minuit. Oui, il y eut des chants dans cette prison. Seigneur, et les autres prisonniers entendaient. Ils entendaient ces chants, ces cantiques. Ils entendaient ces louanges du Seigneur. Et certainement, l'Esprit de Dieu a commencé à les toucher. Seigneur, merci pour cet homme qui, au lieu de se suicider, s'est converti, il s'est tourné vers toi. Et la lumière est entrée, le salut est entré, la délivrance est entrée. Seigneur, et non seulement tu as pourvu pour son salut, mais tu as pourvu aussi dans le domaine matériel. aucun des prisonniers n'est sorti. Seigneur, nous te bénissons pour ces exemples dans ta parole, mais en terminant, je veux te remercier pour la croix. Seigneur, c'est là où tu as tout accompli pour que tout homme, quelle que soit sa situation, eh bien, puisse venir à toi librement, te demander pardon, se tourner vers toi, se convertir. Seigneur, merci de bénir au milieu de nous cet après-midi, Seigneur. Amen.